fait la une du quotidien du médecin, ce qui aurait dû m'intriguer, mais j'ai pas fait attention. Surtout, je me suis aperçu que depuis 1970, l'Union européenne avait imposé des quotas laitiers. C'est-à-dire que ce travail que j'avais fait était complètement absurde. Donc je suis allé le dire au directeur général de l'institution, de l'INRA, qui était très mécontent de ma réflexion et qui m'a dit « Vous n'avez rien compris, il s'agit non pas d'augmenter la production laitière, mais d'augmenter la productivité de façon à avoir des vaches compétitives ». Je veux dire que ce mot de compétitif, je l'ai retrouvé après dans ma carrière et il me gêne et je pense que c'est un mot-clé qui explique un peu le mal où nous sommes dans cette société. Donc je me suis interrogé sur le bien fondé d'une recherche comme ça. À l'occasion de mes expérimentations dans des coopératives d'élevage en France, j'avais rencontré des maquignons qui étaient ravis de ce que je pouvais leur apporter. Ils voyaient des profits. Et puis j'avais rencontré aussi des petits paysans, des éleveurs qui, eux, s'inquiétaient. Et je dois dire que j'ai eu un peu honte du travail que j'avais fait. C'est pas que ça servait à rien, c'est que ça pouvait même être négatif. Et là, je me suis donc interrogé. J'ai éprouvé le besoin de changer d'air. C'est au moment où on m'a proposé de monter un laboratoire de recherche dans un hôpital. Donc c'était le professeur Papernic, patron du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, qui voulait monter un labo de recherche sur la procréation humaine. On dit reproduction, hein, mais moi je maintiens procréation, parce que reproduction ça veut dire clonage. Et je maintiens, y compris pour les vaches, qu'il s'agit de procréation quand un mâle et une femelle font des petits qui leur ressemblent un peu, mais pas complètement, et qui sont différents entre eux. Donc, procréation. Alors j'ai donc pensé que c'était quelque chose qui me permettrait d'échapper à cette absurdité que j'avais vécue, parce que finalement aider des couples infertiles, d'abord comprendre comment fonctionne la procréation humaine, ce qu'on ne savait absolument pas, c'est-à-dire que la fécondation in vitro qui est arrivée peu après, nous a permis de comprendre énormément de choses, à enseigner beaucoup de choses aux gynécologues. Qui faisaient y compris des bêtises opératoires en retirant par exemple ce qu'ils appellent un kyste ovarien et qu'on leur a appris que c'était un follicule ovulatoire. Et j'ai vu des femmes stérilisées comme ça parce que les gynécologues ne savaient pas, on ne leur avait pas appris. Donc tout ça a heureusement changé, mais à ce moment-là, il fallait absolument faire des recherches. Et puis si le but c'était d'aider finalement à résoudre des problèmes de stérilité, ça me semblait beaucoup plus louable que d'augmenter la production laitière des vaches. Donc je suis, ça a été ma période à cheval entre l'assistance publique des hôpitaux de Paris et l'INSERM, la recherche médicale, à partir de 1977, où j'ai travaillé de façon un peu fondamentale sur la maturation des ovules, sur l'ovulation dans l'espèce humaine, et je travaillais en parallèle un peu sur la souris et le lapin, parce que il faut avoir quand même des expériences animales. Je travaillais, pour ce qui est de l'humain, sur des déchets opératoires, des morceaux d'ovaires qui tombaient du bloc et que j'allais chercher, sur lesquels je travaillais. Bon, c'était pas inintéressant. En tout cas, ça apportait des choses nouvelles. J'ai fait plusieurs publications scientifiques. Et puis, l'année suivante, est arrivée la nouvelle d'Angleterre qu'un bébé nommé Louise Brown était né de fécondation in vitro. Immédiatement, les gynécologues du service sont venus me voir, ils m'ont dit « il faut absolument que tu t'y mettes à la fécondation in vitro ». Bon, je me suis dit « après tout, pourquoi pas ?» Il y a des gens, j'en avais déjà rencontré, qui peuvent absolument pas faire de bébé malgré toutes les techniques disponibles. Je croyais pas trop que ça allait marcher. Mais parce qu'à ce moment-là, on mettait beaucoup en cause les travaux anglais, les travaux de Bob Edwards, qui depuis a reçu le prix Nobel. On les mettait beaucoup en cause, en particulier mon patron que j'avais eu à la recherche agronomique, Charles Thibault, qui est un homme qui a inventé la fécondation in vitro chez les mammifères avec le modèle lapin à la fin des années 50. Donc il connaissait l'affaire et il croyait pas trop. Bon, il s'est trompé parce que c'était vrai. En attendant, j'ai commencé à travailler là-dessus avec, disons, une trentaine de patientes. Je dis de patientes parce que c'est surtout la femme qui éprouvait nos essais, évidemment, les hommes beaucoup moins, et qui revenait régulièrement parce qu'elle voulait absolument un bébé, 3, 4, 5 fois par an, elle revenait. C'était assez désespéré. Nous sommes arrivés à obtenir la fécondation assez vite, au bout de 2 ans à peu près, on obtenait la fécondation, mais quand on mettait l'embryon...